13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, le magazine qui se met à table et qui vous met à table. Rendez-vous tous les samedis, midi 13h avec Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien. Critique gastronomique, influenceur, gourmet. On va parler de littérature aujourd'hui. On va parler de littérature gourmande, Manu, si vous voulez bien.
Ah bah ça me plaît beaucoup. J'aime les deux, alors ça tombe bien.
Bien, présentez notre invité, Manu.
Alors, bah, notre invité, les auditeurs la connaissent déjà beaucoup. C'est Fatema Hall. C'est une habituée de Beurre FM, on la connaît pour ses livres de cuisine, pour son restaurant, le Mansouria, dans le 11e arrondissement à Paris. On la connaît aussi pour son attachement à la cuisine du lien et à la cuisine du partage, mais aussi là maintenant désormais comme romancière avec un livre, Le discours amoureux des épices. Alors, dans le titre, il y a forcément un petit clin d'œil à la gastronomie avec les épices, mais là on est sur un vrai roman, Fatema.
Oui, on est sur un roman et un roman ne nous empêche pas effectivement de... On mange pour vivre et on vit pour manger, mais ça ne nous empêche pas du tout de découvrir et de vivre une très belle histoire d'amour.
C'est un roman, c'est une histoire d'amour. Si vous deviez séduire quelqu'un, Fatema, qu'est-ce que vous lui prépareriez comme plat?
Et je crois que j'utiliserais en tout cas la noix de muscade et le massis, parce qu'on a un couple amoureux extraordinaire, ces deux épices. Et puis j'aime bien les figues. Alors un tagine de figues parfumé à la noix de muscade et du massis, c'est carrément extraordinaire.
Alors est-ce que vous les utiliseriez parce que peut-être justement la muscade et le massis ont des propriétés peut-être un peu aphrodisiaques ou envoûtantes?
Vous savez, finalement, on fait ce qu'on veut d'une épice, et l'épice fait aussi ce qu'elle veut de nous. Donc il y a un rapport épice-personne qui est extraordinaire si on prend le temps de les connaître. Et pour prendre le temps de les connaître, il faudrait choisir d'abord le bon produit et connaître l'histoire.
Alors justement, aujourd'hui, quand on parle d'épices, on pense surtout à l'ingrédient que l'on cuisine. Mais pendant très longtemps, les épices, elles étaient aussi utilisées comme parfum, comme médicament, voire même parfois comme monnaie. C'était une monnaie d'échange à certaines périodes. Est-ce qu'on sait à quelle période les épices sont rentrées dans les cuisines de façon importante et pérenne?
Alors pendant longtemps, celui qui détenait la route des épices détenait le monde, le pouvoir sur le monde. On échangeait d'ailleurs une poignée de noix de muscade contre un sac d'or. C'était vraiment, la noix de muscade était d'abord parce que on a trouvé qu'elle pouvait guérir la peste, et guérir la peste, l'Europe était ravagée par la peste. Donc dès le départ, les épices ont eu un rôle très important dans la guérison, c'est-à-dire dans la pharmacopée. Par la suite, dans les parfums, alors on est entre la santé et le bien-être, et l'art de vivre, et puis après, dans la gastronomie, dans la cuisine. Et curieusement, les gens, des fois, vous disent « Ah oui, mais il y a certaines personnes qui mettent beaucoup d'épices pour masquer la pauvreté du plat. » Mais non, les épices coûtaient tellement cher qu'on utilisait les épices que si on savait les utiliser, si on avait les moyens.
Oui, ce que vous dites, c'est très vrai, Fatema, parce que on pense à tort que dans la cuisine du Moyen-Âge, on avait l'habitude de dire qu'on mettait beaucoup d'épices pour masquer le goût faisandé de la viande, ce qui est complètement faux, parce qu'on mangeait la viande très fraîche au Moyen-Âge. En revanche, les épices étaient...
C'est pour marquer leur suprématie.
Voilà,
c'est de dire, j'ai les épices, donc je suis riche.
Parce que c'était très cher, donc effectivement, c'était plus les rois, les princes, les gens aisés qui consommaient
les guerres,
des épices.
Il y avait des guerres pour une poignée de poivre, mais la guerre de la noix de muscade était la plus atroce. Alors que les Arabes ont découvert en Indonésie ces îles, certains ont été complètement occupés par les Arabes et on les appelle les îles Moluques, ce qui veut dire en arabe « Jozor el-Moluk ». C'est un nom arabe, les îles Moluques.
D'accord, ce qui signifie.
Et Jozor el-Moluk, ça veut dire « île », et Moluk, c'est « roi ».
D'accord, les îles d'Awa.
Et il y a eu donc les Anglais qui ont découvert la route, mais c'était pas la plus rapide. Ils n'ont pas su. Ils étaient mi figues et mi raisins, les Anglais. Par la suite, ça a été les Portugais. C'était terrible.
On est à quelle époque là, Fatema?
On est en 1200, 1300. En 1200, parce que ça a duré plusieurs siècles, cette conquête. Et après, c'était les Hollandais. Alors, les Hollandais, en 1500...
C'était plus tard, oui, quand ils étaient en Indonésie, notamment.
Ah, mais là, ils ont pris, effectivement, la route des épices au
avec Bornéo, grand comptoir d'épices.
Et toute la suprématie maritime et militaire de la Hollande s'est construite sur un seul commerce, la noix de muscade.
D'accord, pas les épices, la noix de muscade.
Noix de muscade, d'accord. Parce qu'elle avait... la noix de muscade était la reine des épices. Et en plus, un médecin anglais a trouvé qu'on pouvait guérir la peste avec la noix de muscade. Alors, inutile de vous dire la ruée vers l'or.
Oui, d'ailleurs, l'épice, pardon, Philippe, oui. les épices, c'est le premier désinfectant qu'on a trouvé dans l'histoire de la
ah,
médecine.
Oui, hein. Et bien sûr. Toute la pharmacopée, tous les médicaments et toutes les recherches ont commencé, évidemment, il y a les plantes et les épices. Mais les épices avaient un rôle absolument extraordinaire.
Oui, alors parce qu'il ne faut pas confondre effectivement les herbes aromatiques qui sont des plantes et qui ne sont pas des épices, attention, avec les épices qui là sont soit des racines, soit des bulbes.
Des baies, soit des baies.
Des baies, oui. Ouais. Là, les gens font beaucoup le...
Et des fois même une fleur devient... Oui, tout à fait. La rose de Dadès devient une épice.
Le pistil du crocus qui donne le safran,
ah, oui.
Épice.
Le safran, c'est le roi...
La reine des épices, oui. D'accord. Alors, l'un des depuis très longtemps le plus grand producteur d'épices, avec aujourd'hui plus de 80%, 86%, je crois, à peu près de la production mondiale. Est-ce que la consommation et l'utilisation des épices vient vraiment est-ce que l'Inde c'est le berceau des épices ou est-ce que c'est une tradition qui se pratiquait aussi de longue date dans d'autres régions du monde?
Mais en fait, c'est pour ça, il faut comprendre et connaître l'histoire, la route de la soie, la route des épices. On ne voyageait pas simplement pour un commerce, on voyageait aussi pour découvrir et aussi pour marquer l'autre.
Donc, un côté explorateur et peut-être qu'on conquête aussi.
Oui, et puis les voyages ne se faisaient pas en avion. C'était des mois et des mois de voyage, donc on partait avec un bout de soie, donc on partait soit avec des épices, une technique ancestrale, on cuisinait en route, et quand on arrivait, les gens apprenaient, et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on a découvert après comment les utiliser, et ça s'est démocratisé.
Alors, ce que j'aime dans votre roman, Le discours amoureux des épices, c'est que c'est un roman intelligent, il est à la fois gourmand, mais vous en profitez pour nous raconter des histoires. Et justement, pour nous raconter cette histoire des épices, hein, on était en Indonésie avec la noix de muscade, mais vous avez parlé tout à l'heure du massi, qui est une épice qui est connue que des initiés. Et puis en Indonésie, il y a aussi le clou de girofle.
Oui, le clou de girofle, tout le monde sait que tous les dentistes l'utilisaient contre la douleur, mais aussi dans la beauté, les femmes de Sousse parfumaient leurs cheveux avec le clou de girofle, mais aussi pour parfumer les plats en le plantant dans l'oignon. Donc le clou de girofle avait aussi c'est vraiment le secret extraordinaire, c'est le clou, de la recette.
Du spectacle, oui. les femmes égyptiennes se faisaient des masques aussi avec des
Il a servi, il a eu un rôle extraordinaire, le clou de girofle. Mais toutes ces épices, en fait, le cumin pour la digestion, mais aussi ce serial killer
Le cumin, ouais. Pourquoi on l'appelle le serial killer?
Personne ne l'appelle serial killer en dehors de moi.
Ah bon, d'accord.
Ils ont en fait c'est un rouleau compresseur. Le cumin, si vous le mettez par exemple avec le massis, vous ne sentirez pas du tout le massis, donc il tue le massis. En fait, c'est moi qui l'ai décrit de cette façon-là. Il y a des gens qui adorent le cumin sans le cumin, mais si on observe bien concrètement, en dehors du paprika, il s'entend pas du tout avec d'autres épices.
Alors justement, ça me fait me poser une question. Est-ce qu'il y a des épices qu'on ne marie absolument pas ensemble, qu'on ne doit jamais marier ensemble?
Oui, le cumin, mais le carvi aussi.
Dont on apprend dans votre variété de cumin d'ailleurs.
Ouais, mais dont on apprend dans votre livre qu'elle est citée dans Henri IV de Shakespeare.
Mais oui. Mais en fait, le suivre la route des épices, c'est vraiment rentrer dans un monde extraordinaire. C'est vraiment mille et une histoires au bout de notre langue. Donc c'est pas bien sûr, il y a on les a dans les bocaux à la maison, mais Mais ce qu'il faut apprendre aux jeunes, c'est pour ça que j'aimerais bien aller dans les écoles, c'est de leur dire, quand on voit un produit, c'est de savoir d'où il vient. Et on apprend l'histoire différemment. On l'apprend d'une manière gourmande et, enfin, particulièrement les épices.
Il y a une question d'éducation de palais, quand même, pour les reconnaître. Toutes ces épices, hein.
Mais c'est l'essai, c'est l'expérience. Donc, leur apprendre aussi à expérimenter. Alors, on peut pas savoir sans essayer.
Alors justement, quand on lit vos livres, y compris vos livres de cuisine, puisque là aujourd'hui on parle de votre premier roman, on constate que le partage c'est un fil conducteur important dans votre œuvre depuis que vous avez commencé à écrire. Et on voit aussi que les épices elles sont utilisées dans les cuisines du monde entier aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut en déduire que les épices c'est un vrai vecteur de partage entre les cultures, les civilisations?
Oui.
Et je vais pas dire est-ce que l'épice va réconcilier le monde, mais est-ce qu'il y a quelque chose de...
Les épices seules non, mais la nourriture. Oui, c'est un des derniers liens forts qui reste à l'humanité. C'est un langage. Parce que moi, ils me font rire en disant ce qui réunit le plus au monde, le football. Ben non, non, la nourriture. Parce que le football, quand on joue, quand on regarde la télé, mais il y a des gens qui ne jouent pas et qui ne regardent pas la télé, mais qui mangent.
Oui.
Donc toute l'humanité mange.
Le seul lien indispensable. Les supporters sont pas toujours réconciliés.
Voilà.
Hein.
Et ils apprécient pas forcément les épices. Bon, enfin bon, on va les éduquer.
D'ailleurs, les gens quand ils arrivent au bureau, la première chose qu'ils disent, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'on va encore manger à midi et qu'est-ce qu'on va manger ce soir.
Non, mais cette réconciliation, elle est aussi sur cette route parce que très souvent les gens parlent de la route de la soie qui était très importante pour le commerce. Mais je crois que la plus importante des routes, ça a été vraiment la route des épices. Parce que c'était une conquête. C'est grâce aux épices qu'on a connu l'autre monde, qu'on a connu l'Amérique, qu'on a connu la route des Indes. Et par la suite, ce commerce a été extraordinaire. On dit, par exemple, du Maroc, les gens pensent que les épices viennent du Maroc. Or, les épices ne viennent pas du Maroc. Ils viennent de l'Indonésie. Il y a certaines épices qui viennent d'Afrique, extraordinaires d'ailleurs. Des épices qui viennent de Chine. Bon, si on prend la cannelle du Sri Lanka est meilleure que la cannelle de Chine.
Oui, mais il y avait des variétés de cannelle différentes.
Absolument.
Hein,
elle
la cannelle,
oui,
d'ailleurs, on citait tout à l'heure les épices.
20 fois plus cher.
Oui. On citait tout à l'heure les épices qui étaient parfois des baies, parfois des racines, etc. Mais effectivement, là, on avait oublié de citer les épices qui sont des écorces, puisque la cannelle, c'est une écorce.
Tout à fait. Oui. Et quand on pense aussi... à la mastica, à la gomme arabique.
Alors, la gomme arabique,
c'est un histoire
pour les auditeurs, oui. Alors, expliquez un petit peu la gomme arabique, c'est quoi? Ça sert à quoi?
En fait, la gomme arabique qui vient d'Afrique, bon, les Grecs disent que ça vient de la Grèce, mais enfin, qu'importe, les arbres ont dû pousser peut-être, mais en tout cas, la plus importante pousse en Afrique, c'est, quand on coupe
c'est
l'arbre.
Comme une résine un peu, c'est ça.
C'est une résine. C'est une résine qui forme comme des petites perles. Et ces perles-là, pendant longtemps, ont parfumé. Les Marocains l'utilisent avec juste avec une salade d'oignons. Et c'est vraiment sublime. Mais elle sert aussi comme lion. Elle lie les
aujourd'hui, oui.
Non,
oui,
mais même
dans
la cuisine. Même dans la cuisine, dans la pastilla, dans les cornes de gazelle. Mais malheureusement, parce que ça a fait vivre les gens, on l'a découvert pour le Coca-Cola, et elle est utilisée à tort et à travers, et elle porte même un numéro 426.
Oui, quelque chose. Oui.
Et donc, quand elle parle d'elle-même, elle dit ça fait rien parce que ça fait vivre les gens de mon village.
Voilà, on parle de cuisine et de littérature aujourd'hui à l'occasion de la publication du premier roman de Fatema, Le discours amoureux des épices, Dessus de table. C'est jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table avec Manuel Mariani et Manu, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Fatema Al, cuisinière, qui vient de nous parler de son premier roman, ça s'appelle Le discours amoureux des épices, aux éditions Zellige. Alors évidemment, ça parle d'une histoire d'amour, mais ça parle aussi beaucoup de cuisine, c'est parsemé, puisque votre héroïne Fatema est comme vous cuisinière, donc elle rencontre un homme qui s'appelle Freeman, et elle va l'inviter à manger au restaurant, ils vont beaucoup parler de cuisine et ils vont voyager, ils vont partir notamment en Hollande.
Et cuisiner ensemble aussi.
Et ouais, ils cuisinent ensemble, ils râpent ensemble les épices, hein, et ils partent ensemble et elle l'emmène au Maroc un petit peu faire ce parcours culinaire.
Initiatique, oui.
Ouais, c'est vraiment.
C'est un voyage initiatique, oui. Ils vont en Hollande, après au Maroc, et c'est vrai qu'au Maroc, c'est là où ils découvrent les préparations les plus extraordinaires. Et même le thé au safran, d'ailleurs. Ils découvrent que le safran parfume le thé.
Alors, cet homme que vous rencontrez...
Mais il ne le découvre pas parce qu'il en avait déjà bu.
Oui, oui, mais ça, effectivement...
Et elle découvre justement parce qu'elle croit lui faire une surprise. Elle, juste, elle le teste à ce moment-là. Elle se rend compte que, ah, visiblement, il n'en sait plus ce qu'il en a l'air.
Elle est toujours surprise et elle se dit, finalement, il cache son jeu.
Alors, votre héros que vous rencontrez donc dans votre livre, enfin que votre personnage principal qu'on a envie d'appeler Fatema un petit peu, mais bon,
votre non, ça s'appelle pas Fatema, ça s'appelle Madame Al.
Je sais bien, mais
jusqu'à la fin, bon, à la fin, elle s'appelle Zara.
D'accord. Mais alors, votre héros, donc le personnage principal de votre livre, Madame Al, rencontre Freeman, ça veut dire homme libre. Est-ce qu'il y a un parallèle justement avec les épices? Parce que les épices, c'est un peu la liberté aussi en cuisine. Hein.
Mais sincèrement, au départ, le nom Freeman s'est imposé à moi parce que je trouvais que ça sonnait bien. Et voilà, donc ça a été un choix. Moi, je ne parle pas du tout l'anglais. J'ai appris que la signification, c'est homme libre et ça me convenait tout à fait.
Enfin, oui, Freeman, c'est plutôt bien tombé, alors.
Mais c'est son nom de famille, parce qu'il s'appelle Claude, en fait.
Il s'appelle Claude, son prénom.
Ouais, c'est son prénom. Moi, j'appelle Freeman, mais effectivement, c'était un
mais on a des surprises,
Ouais, voilà. A priori, il s'appelle Claude.
Voilà.
Alors, pas mal d'épices dont vous nous parlez, vous parlez d'un que vous aimez particulièrement, c'est le kubeb.
Ah oui, j'adore.
Que vous appelez le poivre à queue.
Oui, en fait, ici, on l'appelle poivre à queue. Et d'ailleurs, le kubeb est des fois en colère parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle poivre à queue. Il appelle le kubeb le kebab en arabe. Et alors, je trouve que ceux qui l'utilisent le mieux au monde, c'est Oujda, ma ville natale, et un petit peu Tlemcen.
On reste dans l'ouest algérien, quand même.
Et dans le nord-est marocain.
Marocain.
Donc, ça fait... voilà, il y a une rencontre et un partage.
Voilà, là aussi, on traverse la frontière.
Parce qu'ils ont su... le mélanger d'une manière subtile et extraordinaire et élégante avec des amandes pour le makroud. Le makroud, nous on dit le makroud, il y a ceux qui disent le makroud, et c'est vrai que ça parfume. Alors, ce kubeb, c'est 3 ou 4 épices à la fois. On a un petit peu le parfum de la noix de musc. Alors, quand on n'a pas du tout d'épices à la maison, il faut avoir au moins le kubeb.
D'accord.
Alors,
oui,
celui qui lui ressemble.
C'est un mélange à lui tout seul, quoi.
Seul, il est 4 parfums. C'est une très jolie danse.
Alors, justement, puisqu'on évoque les mélanges, c'est vrai qu'on constate souvent que les gens utilisent beaucoup les épices dans la cuisine, pas toujours à bon escient d'ailleurs, mais les gens ne connaissent pas forcément bien les épices, parce qu'il y a le curry, le zaatar, le ras el hanout, le colombo, le 5 parfums ou encore le masala, que beaucoup de gens appellent à tort épices, alors que ça, ce sont des mélanges d'épices. Alors, est-ce qu'il y a aussi un apprentissage aussi à faire avec les gens pour leur permettre de mieux connaître les épices, parce que bon, les épices, c'est pas seulement des petits tubes qu'on trouve dans les supermarchés.
Un grand apprentissage. Il y a tout à faire. Et comme j'aime cette radio, donc j'ai créé, enfin je sais pas si on peut utiliser le mot créer, la cérémonie des épices qui n'existe pas et qui existe où je vais vraiment elle est mise en point, je vais surtout la dévoiler, et c'est la première fois que j'en parle dans une radio.
Merci pour le scoop, Fatima.
Parce qu'il y a la cérémonie du thé et comment connaître un produit d'une manière extraordinaire que dans une cérémonie, c'est-à-dire lui donner la place qu'il mérite.
Finalement, il faut combien d'épices pour qu'un plat soit bien? Au-delà de combien d'épices, ça devient compliqué pour l'apprécier?
Non, mais la question se pose pas comme ça, parce que, par exemple, au Maroc, on a, je pense que pour l'Algérie, c'est peut-être pareil, je n'en sais rien, il y a des plats où il y a un duo, il y a juste deux parfums, et ça va jusqu'à 27 en même temps.
Ouais, le fameux ras el hanout, notamment.
La morosilla avec les 27 épices. Et sincèrement, c'est pas épicé. Alors, il faudrait aussi faire attention, parce que les Français, quand ils disent épicé, ils parlent pimenté. L'épice,
voilà,
parfume.
C'est ça,
elle ne pique pas. Elle n'enflamme pas. Elle parfume. Ça parfume. Et quand on sait les doser, Là même, 27, c'est magnifique, mais c'est quand même que pour certains plats. Il y a certains plats où on a deux, il y a d'autres où on a trois, il y a d'autres où on a quatre. Et puis, des fois, il y a des écoles. Par exemple, à Fès, on met pas le poivre systématiquement. Il y a des plats où on met que le sel et le gingembre. Par contre, l'école de Marrakech, le poivre est systématique. Si on met le sel et le gingembre, on met aussi le poivre. Voilà. Mais tout ça, ça s'apprend.
En parlant de la mourousia que vous venez de citer, c'est un plat qu'on fait dans une occasion très précise.
Oui, la Eid al-Kbir, la fête
et
du
pas
sacrifice.
Le premier jour, hein.
Non, parce que le premier jour, il y a certains morceaux qui ne peuvent pas être conservés. Ou qu'on aime aussi consommer
tout de suite. Donc c'est les abats
qu'on
va faire en premier.
Les abats, voilà. Exactement. Mmh. Et par la suite, la viande, bon, comme il y a beaucoup de viande, une partie, on va la préparer avec du sucre, puisqu'au Maghreb, on avait le sucre, et particulièrement au Maroc, les épices, donc le ras el hanout, et on conservait cette viande dans des jarres.
Alors, est-ce qu'on connaît justement l'histoire de la mourousia à travers les âges, mais à travers les continents aussi, parce que il y a des plats qui ressemblent étrangement à la mourousia et dans des cuisines justement de populations musulmanes. Il y a notamment le massaman d'agneau en Thaïlande qui est un peu sur le même principe, c'est-à-dire c'est de l'agneau qui est mariné avec beaucoup d'épices, qui est cuit très longuement. Il y a le rendang qui se fait plutôt avec du bœuf là en Indonésie, mais qui est un petit peu sur le même principe et qui sont alors ça mijote longtemps, ouais. Et le massaman par exemple en Thaïlande c'était un plat d'une communauté musulmane, d'une ethnie musulmane peu répandue mais qui avait une cuisine très très riche. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces plats qui se ressemblent notamment par l'utilisation d'un grand nombre d'épices, du miel, de la cuisson très longue, du fait de mariner? Est-ce qu'on trouve un lien entre tout ça?
Alors les textes les plus anciens, c'est 11-12e siècle, c'est Ibn al-Razin Tujibi, et qui nous parle effectivement de la mourousia. Sauf que la mourousia, à cette époque-là, c'était pas du tout avec des raisins secs, parce que, alors, ils se ressemblent sans se ressembler. C'est pas parce qu'ils mijotent, tous les plats mijotent, il y a aussi des plats en France qui mijotent. Donc, la mourousia, c'est très très différent. C'est cette viande d'agneau, ces 27 épices, et les amandes, et aussi maintenant les raisins.
Et aujourd'hui les raisins, oui.
Mais le 12e siècle, c'était ce qu'on appelle l'œil de bœuf, Aïn Bakhla, qu'on continue d'ailleurs à l'appeler Aïn Bakhla en Algérie, l'œil de bœuf qui était les pruneaux.
D'accord.
Par contre, je n'ai jamais su pourquoi on est passé du pruneau au raisin sec, mais aussi parce que les femmes ont... Et c'est ça qui est beau, parce que le changement peut être brutal, et en même temps, il peut durer très longtemps. Donc, à un moment donné, elles ont changé. Peut-être qu'il y a eu une pénurie de pruneaux.
C'est ça,
et
oui.
On s'est dit, bon, fruits secs pour fruits secs, on va mettre les raisins. Sauf que c'était quand même très bien pensé. On n'a pas mis n'importe quoi.
On n'a pas dénaturé le plat.
Non.
On s'est adapté à...
Voilà, ça apporte le sucre d'un fruit sec. Les amandes, on les a gardées. Les épices aussi. Et on le fait que de temps en temps.
Alors, pour rester sur les épices, hein, dans votre livre, vous parlez de la nigelle, citée à la fois dans la Bible et dans le Coran, qui aujourd'hui redevient très populaire, hein, la nigelle.
Oui. Elle devient très populaire d'abord parce qu'elle parfume d'une manière extraordinaire et qu'elle peut être même seule. C'est-à-dire que si on n'a rien, on n'a que de la nigelle. Pendant longtemps, en France, on l'a découvert à travers le pain des Tunisiens. Parce que sur le pain,
oui,
ils mettaient
graines de nigelle. Oui.
Mais alors, elle expliquait aux Français, elle a dit, mais c'est quoi la nigelle? Ben, c'est de la nigelle. Oui, mais comment, elle s'appelle comment en français?
Oui,
la nigelle,
en
arabe, c'est sanouche. Ah, mais c'est le grain de sésame noir. Non, c'est pas le grain de sésame noir. Le grain de sésame noir, il a le goût du grain de sésame.
Oui,
la
nigelle, c'est différent.
En fait, pourquoi je dis ça? C'est simplement, quand on ne connaît pas quelque chose, il ne faut pas chercher forcément à l'associer avec quelque chose qu'on connaît. Ça veut dire une découverte. Alors, découvrez.
Oui, il faut être très ouvert d'esprit quand on apprend. C'est ça, il faut accepter de ne pas savoir et de repartir
de
zéro.
Ouais.
Autre épice, la racine d'iris. Et là, vous dites de la racine d'iris que c'est le comble du raffinement.
Alors, oui.
Je crois que c'était une fleur, moi, la racine d'iris.
Oui, c'est une fleur. Non, mais il y a la fleur, il y a la racine. Alors, la fleur, c'est la fleur, mais la racine d'iris...
Je taquine, mais expliquez-nous pourquoi c'est tellement raffiné.
Parce que, en fait, on a des parfums évidents. C'est-à-dire, bon, vous avez un bol et vous mettez le cumin moulu dedans, c'est terrible, vous le sentez. Mais vous avez la racine d'iris moulue, il faut s'approcher délicatement, elle vous impose presque le respect, parce que vous saisissez quelque chose, mais vous savez pas quoi, et c'est tellement délicat, et vous vous approchez, et puis quand vous êtes... Vous dites waouh, mais ça reste quand même très subtil, très très subtil.
Mais on a l'image des épices qui sont toujours dans la force et dans la puissance, mais en fait pas du tout. Il y a des épices qui sont très fines, très raffinées.
Le massis, les perles.
Bah, le safran, de la
gomme arabique. Le safran est fort. Il y a la gomme arabique qui est très subtile, la racine d'iris, le massis.
Mais le massis que vous voulez faire sortir de l'anonymat. De l'anonymat où il se trouve aujourd'hui.
Oui, sans le vulgariser quand même, tout en le gardant. Il est très snob, il est précieux, snob, il est anti-héros en même temps. Il n'a pas envie, lui, de s'afficher comme le safran, je suis le roi des épices, il s'en fout. Et sa compagne, elle, c'est la reine des épices, il s'en fout, lui. Il veut simplement être avec elle et il veut parfumer délicatement nos plats.
Un autre dont vous nous parlez, c'est le poivre long.
Ah, j'adore.
Et vous dites que c'est la plus majestueuse des épices. Alors, c'est quoi la différence entre le poivre et le poivre long?
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que dans le poivre long, tiens, il se rapproche un petit peu, mais un tout petit peu du kubeb. Il est pas loin de la noix de muscade. Il a un petit peu, c'est un empereur, vraiment. Et d'ailleurs, il est beau. Il est très très beau. Il ressemble à un palmier en miniature. Il est sublime. Il faut l'avoir.
Une petite pomme de pin, un peu, presque.
Vraiment, non, pas comme un... Non, mais vraiment comme un mini palmier. Il a vraiment la forme du palmier. C'est miraculeux, tous ces épices. C'est un monde complètement à part. Moi, je deviens dingue avec ces épices parce que je les fais parler et j'ai l'impression vraiment de les voir vivre. La première fois où... c'est pas Freeman qui m'a demandé, mais parce que j'ai eu aussi une histoire peut-être, mais pas une histoire d'amour, ou alors l'amour de la passion, avec Rollinger, qui m'a demandé de lui composer le meilleur Ras el Hanout. Il m'a donné les meilleures épices du monde, et je me rappelle de cette soirée dans ma grande cuisine, avec une grande table où je les ai disposées. Quand j'ai terminé, c'est comme un chef d'orchestre. Franchement, j'ai pleuré d'émotion.
Mais on part d'une feuille blanche, là, parce que c'est vrai que créer un nouveau Ras el Hanout, c'est pas une chose aisée.
Pour un grand chef, en plus.
Mais en fait, on crée toujours quelque chose de nouveau. Parce que le vrai Ras el Hanout, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ce que quelqu'un a créé il y a des siècles, mais qui ne ressemble plus à celui qu'on manipule.
C'est-à-dire qu'il y a une recette originelle.
Oui, voilà. Ouais. Voilà.
Bien. On parle des épices avec Fatema Al, qui est notre invitée. On va parler des épices, mais on va parler de cuisine, parce que je disais que dans votre roman, il y avait aussi ce voyage gastronomique, notamment à Marrakech. Donc, on va aller se promener dans les rues de Marrakech et on va cuisiner. Le titre du roman de Fatema Al, c'est Le discours amoureux des épices aux éditions Zellige.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, on parle de cuisine épicée, tiens d'ailleurs, aujourd'hui, et de littérature, Manu, puisque notre invité c'est Fatema Al.
Absolument, donc de littérature, mais très gourmande, de la littérature, puisqu'on parle du discours amoureux des épices aux éditions Zellige avec Fatema Al. Alors juste avant la pause, on parlait du Ras el Hanout, hein, ce fameux mélange d'épices. Et d'ailleurs, vous avez, vous le disiez, créé un Ras el Hanout pour Olivier Rollinger, qui est un très grand chef, mais qui est aussi un fabricant d'épices. Réputé maintenant, un dingue d'épices, hein, Olivier Rollinger. Et donc, le Ras el Hanout, ça veut dire quelque chose, Ras el Hanout. Il y a un rapport avec le vendeur d'épices. Expliquez-nous ça, Fatima.
Alors, moi, je ne dis jamais mélange, c'est une composition.
D'accord.
On compose, on ne mélange pas, on compose. C'est-à-dire que quand on compose, on réfléchit. Ras el Hanout, très souvent, j'entends les gens, Ras el Hanout, ça veut dire la tête du magasin. Et on a presque l'impression qu'ils voient un danseur folklorique qui tourne la tête avec
un derviche.
Non, Ras el Hanout, la tête, si on réfléchit, ça veut dire cerveau. Et le cerveau, il réfléchit. Ça veut dire qu'on a pensé, réfléchi. Quand on sait l'histoire des épices et le coût, terrible, très 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 cher. Ras el Hanout, on l'utilisait une à deux fois par an, tellement il coûtait cher. Donc il y avait une vraie réflexion. C'est en fait ce qu'on a de mieux dans un magasin, de plus précieux. Et qu'est-ce qu'on a de plus précieux? C'est la tête, et la tête qui réfléchit. Sans tête, il n'y a rien. Et donc voilà, la Sahanout, ce n'est pas du tout quelque chose qui est un gondole du magasin. Non, c'est quelque chose de très précieux qui est au fond.
C'est l'étendard, l'emblème du magasin.
Après, il y a eu tout un folklore qui s'est construit autour.
Votre livre est aussi un livre de recettes, et toutes les recettes ont une histoire. Vous racontez dans votre livre l'histoire d'un plat pour homme qu'on appelle la tangia. Alors d'abord, pourquoi la tangia, c'est un plat d'homme?
Alors tangia al marrakechia, parce qu'elle a été, et on la trouve d'ailleurs qu'à Marrakech. Alors c'est d'abord le nom du plat, de l'amphore. C'est un amphore.
C'est comme le tagine finalement. C'est à la fois le nom du plat et le nom de ce qui permet de le faire.
Du contenant. Et ce contenant, donc, il n'a pas la forme du tagine, mais il est fabriqué avec la même matière.
C'est une jarre, on va dire.
Une jarre. Tain, tagine, tangia, tain, c'est la terre. Et elle a donc la forme de l'enfant. Et en fait, les hommes, comme on me l'expliquait, les hommes célibataires, qui restaient célibataires longtemps, ce qui veut dire, des vieux garçons. La tradition voulait que certains organisaient comme un dîner sur l'herbe. Donc, un déjeuner, pardon. Quand ils allaient déjeuner, ils passaient d'abord chez le boucher. Le boucher qui préparait la viande avec les épices, l'huile d'olive. Et sachant que ils allaient au hammam. Et après, la tangia au four. Sachant que le feu qui réchauffait
l'eau du hammam, c'est ça? C'était
oui,
la même que pour le...
Celle qui servait pour la cuisson réchauffait aussi l'eau du hammam. Et donc, on allait au hammam, et après, on allait tout de suite, là, il est à côté de l'autre, et on passait au four, on prenait l'amphore, et on l'a partagé avec les autres garçons. Donc c'est vraiment un plat entre hommes.
Et la tradition du plat d'homme, oui, puisque évidemment les hammams n'étaient pas mixtes. La plupart ne le sont toujours pas aujourd'hui.
mais vous expliquez qu'on le posait sur l'alouza, l'amande du feu.
Ça, j'ai appris
que ça veut dire,
dernièrement. L'amande du feu, et en fait, c'est... parce qu'il faut savoir que tous ces gens qui sont dans cette tradition absolument sublime et extraordinaire, c'est aussi des poètes, des amoureux, ils faisaient la différence entre un endroit et un autre, et ils nous faisaient rêver. Et donc, même le feu, il y a un endroit où il est moins chaud, ils savent qu'au centre, la braise tout autour, et on mettait l'amphore au milieu, et on l'a laissé 4 heures minimum. Donc, si on la met sur cette amande du feu, ça veut dire que l'endroit le plus précieux, encore une fois, du feu, là où rien ne brûle.
D'accord, oui, c'est
très poétique.
Ça peut paraître rustique, mais en fait, c'est très technique et poétique aussi.
C'est très technique, c'est très observé, c'est très travaillé. Et en plus, ça nous fait rêver. Et c'est ça que j'aime, les derniers qui restent encore, c'est nous montrer cette précision, parce que c'est très précis, à une minute près, c'est vraiment très précis. Et en même temps, ils ne nous embêtent pas avec leur précision, ils nous la décrivent comme s'ils parlaient d'un poème, ou comme s'ils citaient un poème.
Alors, quand ils sont à Marrakech, ils sont à la recherche de ce qu'on appelle un farnachi. Qu'est-ce que c'est qu'un farnachi?
Farnachi, c'est comme un boulanger, sauf c'est un boulanger qui cuit le pain, mais qui ne le pétrit pas. Or, en France, un boulanger pétrit le pain et le cuit. Le pain était pétri dans les maisons, et le farnachi ne faisait que le cuire. C'était le maître du feu.
Mais il y avait des fours collectifs dans les villages où les gens venaient cuire.
C'est beaucoup plus. En fait, c'était surtout les villes. C'était que les villes.
D'accord.
Les villages, c'est autre chose. C'est un four commun pour la famille.
Pour toutes les familles.
Ouais. Pour la famille.
Ah oui, parce que les villages étaient souvent habités par une même famille qui était très, très étendue.
Et dans la ville, c'est bien autre chose. C'était un four par quartier.
D'accord. Oui, et d'ailleurs, souvent, les places des villes et les places des villages, c'était l'emplacement du four. Et le four, on revient encore au lien et au partage.
Et parce qu'il y a le hammam à côté. Ouais. C'est-à-dire que c'est très pensé. On ne va pas chauffer le four parce que ça coûtait cher, le feu. Donc on a ce feu qui réchauffe l'eau du hammam et qui fait cuire le pain. Et ça, je trouve ça majestueux.
Rien ne se perd, finalement.
Je trouve ça majestueux. C'est comme l'eau, la cuisson. C'est pas par hasard que, par exemple, dans le Maghreb, on ne blanchit pas les légumes. Et parce que en Europe, on blanchit, on jette l'eau. Alors nous, on jette pas l'eau simplement pour les vitamines, mais on ne jette pas l'eau parce qu'elle est précieuse. Donc on fait cuire les légumes dans cette eau qui est sauce aussi. Donc on met un peu moins, les légumes cuisent dedans et rien n'est perdu.
Alors,
donc, c'est vraiment magnifique.
Il y a des traditions culinaires comme ça qui pourraient être l'ancêtre des collectivités territoriales.
Exactement, et qui peuvent nous servir maintenant pour sauver
la planète.
On devrait
s'en inspirer, oui. On devrait
s'en inspirer.
C'est pour la transition climatique. Votre restauratrice, Madame Hall, dans votre livre, a une recette, une spécialité, c'est le tagine de l'étrangère. Qu'est-ce qu'on appelle le tagine de l'étrangère?
Alors, ça aussi, c'est très beau. Ça veut dire aussi que les femmes sont des historiennes. Elles écrivent l'histoire à leur façon. Non seulement en cuisinant et en gardant et en transmettant, mais en donnant des noms. L'aubergine qui est arrivée à une certaine époque, l'aubergine qui vient du Moyen-Orient, mais sûrement de l'Inde, elle était étrangère. Elle arrive au Maghreb, elle arrive en Espagne, et on la prépare dans un plat, et on l'appelle le plat de l'étrangère. Moi, j'adore ça. Al-Barraniya. Marqab al-Barraniya. Al-Barraniya, ça veut dire al-Barraniya, ça veut dire l'étrangère. Et c'est magnifique. On peut la faire avec de l'agneau, du veau, des aubergines, qu'on rajoute à la fin. D'ailleurs, les aubergines, on les fait frire. Et on cuisine un plat à l'étouffée pendant des heures et des heures avec juste la viande, des pois chiches et des épices. Et au moment de servir, on parsème cette étrangère sur la viande. C'est à tomber. C'est très bon.
Alors, le discours amoureux des épices, c'est un roman parce qu'effectivement, même s'il est inspiré de vos voyages, de vos connaissances, il est malgré tout.
C'est une fiction.
Voilà, c'est une fiction qui est née de votre imagination. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un conte parce que c'est aussi, vous avez rassemblé plein d'histoires fabuleuses, extraordinaires qui font rêver, voyager. Est-ce que c'est un roman mais un peu un conte à la fois aussi?
Moi, je trouve pas. Souvent, on me pose la question parce que on raconte une. Moi, même l'histoire, même si c'est un roman, tout ce que je raconte, j'ai quand même vérifié les textes. Donc, c'est pas un conte en fabule.
Oui, c'est pas une légende. Oui, on parle pas de légende.
Non.
Je parlais du côté effectivement extraordinaire du conte qui fait voyager,
oui,
qui fait rêver.
Oui, c'est vrai parce que tous les Maghrébins, particulièrement les femmes, sont des conteuses. On adore raconter des histoires. C'est dans ce sens,
oui. Ah oui, non, c'est tout à fait dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on parle parfois des épices,
oui,
dans les
contes. On aime faire voyager, faire rêver les gens. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans la vie, même en étant dans mon restaurant, c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver.
Alors, en parlant de voyage, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une route des épices, ou est-ce que maintenant les épices, c'est devenu quelque chose de peu international?
Oui, non, mais les épices ont... Il y avait une seule route avant,
oui.
Peut-être la terrestre et la maritime, mais c'est tout. Mais on allait aux mêmes endroits. Maintenant, les routes des épices sont les distributeurs.
Elles sont mieux, oui, c'est ça. Oui, c'est dans les cargos maintenant. Oui.
Bien, Fatima, est-ce que vous exagérez quand vous dites que les Marocains ont inventé le blinitz?
Ah, j'ai pas dit les Marocains, mais les musulmans.
Mais je rigole, mais
ouais,
c'est vrai qu'en fait,
oui.
ça paraît évident, j'ai envie de vous dire.
Quand
on regarde le blinitz, on se dit que ça ressemble quand même beaucoup à une crêpe mille trous qui aurait été cuite de côté.
Vous ne trouvez les blinitz que sur la route où il y avait l'Empire ottoman. C'est simple. Et quand vous le préparez, les blinitz sont des brûlés ratés. Et d'ailleurs, ma mère, elle dit, on n'a pas bien expliqué au riz. vous savez, les recettes ratées donnent des fois des choses extraordinaires, comme la tartata. Le blinis va faire partie de ça.
D'accord. Alors, justement, bon, il y a ce, on parle du voyage à travers la gastronomie, du partage. Donc le blinis qui viendrait du barir, j'espère que je prononce pas trop mal. C'est vrai qu'on Je voulais prendre un exemple. Il y a la fameuse pita, qui s'est transformée en pizza.
Oui, c'est un glissement sémantique.
Voilà. Et puis dans le sud de la France, la pisse saladière. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple comme ça de produits alimentaires qui voyagent comme ça, dont le nom se transforme, mais qui reste, qui garde une même racine comme ça.
Non, mais oui, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, si on prend le foie gras. Oui. Foie gras qui vient de la Haute-Égypte. Alors, donc le foie gras n'a pas été découvert en France. C'est les pharaons.
Pas dans le Périgord.
Mais en même temps.
Et en Égypte, c'était pas avec des canards, c'est avec des oies d'ailleurs
des
à
oies,
la base.
On avait des oies. Mais en même temps, bon, c'est les Romains qui l'amènent en France, en Italie d'abord en France. Mais en même temps, il n'y a pas d'Égyptien qui. Je n'ai rencontré aucun Égyptien qui fait le foie gras. Donc, grâce aux Français, il a été sauvé et on voit, on mange un foie gras absolument extraordinaire. Et la dinde qui vient d'Amérique, parce que Noël sans foie gras et sans dinde, il n'y a plus de Noël, mais en même temps, c'est grâce à la France, au travail de la France, que ça a été sublimé. Donc c'est ça qui est très beau. Les spaghettis, quand on regarde les spaghettis, mais on regarde cette pâte qu'on prépare comme ça, très longue à l'infini, est-ce que c'est l'ancêtre des spaghettis? Peut-être. Peut-être, et c'est ça qui est très beau, et c'est ça qui nous donne envie d'aller encore plus loin dans l'histoire de la nourriture. Et
d'ailleurs, vous citiez la dinde qui vient du continent américain. En fait, le nom de la dinde, à la base, c'était dinde, D'INDE.
Ça paraît évident.
Oui, mais bien sûr.
La dinde vient d'Inde, de l'Inde des Indiens.
Oui, mais de l'Amérique aux États-Unis, des États-Unis en France, la pintade vient d'Afrique. Voilà, c'est très beau. En même temps, ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'ouvre aux autres. Si tout vient d'ailleurs, ça veut dire que les autres ont des choses à nous apprendre et nous, on a aussi à leur apprendre comment avancer différemment.
Ouais, alors, dans Dessus de Table, on fait pas de politique, mais on pourrait éventuellement militer pour une internationale culinaire.
Oui, ou pour le vivre ensemble.
Oui, déjà, c'est
voilà,
bien ça.
Délicieux.
Ouais. La cuisine du vivre ensemble. En tout cas, si vous aimez les épices, les belles histoires d'amour, on le disait tout à l'heure, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Fatema, vous racontez bien les histoires, le discours amoureux des épices. C'est votre premier roman et c'est aux éditions Zellige. Merci d'être passé à table aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci Fatema.
Voilà Emmanuel, on se retrouve demain matin 9h pour Avis de sortie.
Absolument.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.